Radio Kapi. Oh, Kapi.
Midi pile à Kinshasa, 13h à Kalemie dans les Tanganyika. Voici les titres de ce journal. Le président de la République condamne les propos discriminatoires, des stigmatisations et d'exclusion tenus lors des opérations d'enrôlement des électeurs. S'adressant hier vendredi aux membres du gouvernement en plein conseil de ministres ici à Kinshasa, Félix Tshisekedi leur a rappelé leur mission, que leur mission est d'être au service des Congolais sans distinction. En Ituri, 13 autres civils ont été tués hier vendredi au cours d'une nouvelle attaque du groupe armé Codeco à Nyamamba, au bord du lac Albert, à environ 110 km à l'est de Bounia, dans les territoires de Djougou. La société civile locale déplore l'absence des FARDC dans ces entités sous contrôle des miliciens. Les nouvelles autorités des entités territoriales décentralisées de Bukavu, nommées dernièrement par ordonnance présidentielle, ont trouvé les caisses presque vides à leur entrée en fonction. C'est ce que dénonce le coordonnateur de l'organisation citoyenne qui lutte pour la bonne gouvernance, Obapej Sud-Kivu. Amos Bissimwa est l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République condamne les propos discriminatoires, des stigmatisations et d'exclusion tenus lors des opérations d'enrôlement des électeurs. S'adressant hier vendredi aux membres du gouvernement en plein conseil de ministres, Félix Tshisekedi leur a rappelé que leur mission est d'être au service des Congolais sans distinction. Écoutez à ce sujet Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait du compte-rendu du conseil de ministres.
Le président de la République, chef de l'État, a dénoncé et condamner de la manière la plus ferme les propos discriminatoires, les stigmatisations et d'exclusion tenus dans le cadre de la sensibilisation au processus électoral, particulièrement à l'enrôlement. Il a rappelé que la mission des membres du gouvernement, c'est d'être constamment au service de Congolais, sans distinction aucune et quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses. Il est de notre devoir de prêcher par l'exemple pour préserver l'unité nationale, a conclu le président de la République.
Au processus électoral en RDC, les députés nationaux Gratien Iratian, élu de Bounia, demandent l'implication des leaders communautaires dans la sensibilisation des populations afin de s'enrôler massivement. Ce député a fait cet appel à Goma dans le cadre de ses vacances parlementaires. L'élu de Bounia demande aussi aux leaders politiques qu'il qualifie de leaders éternels à pouvoir cesser de prendre les populations en otage. Gratien Iratian est au micro de Denise Lukeso.
Nous voulons ainsi que ces communautés sensibilisent et persuadent les citoyens de pouvoir s'enrôler, parce qu'il y a toujours des résistances et il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il faut voter. Il y a des gens qui disent que si je vote, ça ne pourra pas changer le pays. Ou alors, chaque fois vous détournez nos voix, donc ça ne sert à rien de pouvoir voter. Non, je pense que les leaders doivent aller vers la population pour convaincre ces membres des communautés de pouvoir s'enrôler d'abord, parce que sans enrôlement, on ne peut pas voter. C'est là où nous sommes en train de demander encore à la population, au lieu de souffrir pendant 5 ans parce qu'on aura détourné votre voix, acceptez, au moins vous souffrez un jour et après votre vérité est exprimée. Mais aussi nous sommes en train de sensibiliser les leaders à pouvoir laisser la population libre s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de membres de communautés qui sont pris en otage par des leaders politiques éternels. Et pourtant ces leaders sont parfois dans l'alliance avec des gens qui détruisent les pays. Il faut qu'il y ait maintenant des jeunes leaders qui peuvent contrebalancer des leaders émergents qui peuvent renverser la tendance pour que la population soit libre de s'exprimer.
Après l'étape du Haut-Katanga et du Nord-Kivu, les députés Iratian poursuivent ses vacances parlementaires dans les provinces du Haut-Uele et en Ituri. Au Congo central, pendant ce temps, le dysfonctionnement de plusieurs machines d'enrôlement met en mal la rapidité de cette opération. Le président de l'Assemblée provinciale, qui a fait la ronde de quelques centres d'inscription dans la ville de Matadi, affirme qu'à la suite de la lenteur observée, à 10 jours de la fin de ces opérations, le Congo central n'a enrôlé que 20% de sa population. Et pourtant, d'après Jean-Claude Vuemba, pour que le Congo central récupère son poids politique d'antan, l'objectif est d'atteindre 3 500 000 enrôlés. Pour ce faire, il appelle la population à s'enrôler massivement. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
partout où nous passons, on nous informe simplement qu'il y a des problèmes par rapport à la connexion et par rapport aux machines. Ici, nous sommes arrivés, il y avait 3 machines, il y a une, ça ne va pas. Il y a même l'autre que le chef de centre est en train de craindre parce qu'il commence à terminer les informations, après, ça recommence. Au Congo central, à l'heure actuelle, nous sommes à 20%. Vous vous rendez compte, à 20%, nous sommes à 10 jours de la fermeture. Parce que nous, dans le Congo central, notre objectif, c'est d'avoir 3 500 000 enrôlés pour que enfin le Congo central puisse recommencer à s'approprier de son poids politique qui doit être de 48 députés provinciaux et de 29 députés nationaux. Parce que nous ne pouvons plus laisser l'espace qui était l'espace du Congo central aux autres. Pour que demain le Congo central pèse, la population, vous devez vous faire enrôler pour que nous nous retrouvions au moins à 3 500 000 enrôlés pour que vous, votre voix soit nécessairement une voix qui doit mettre les nouveaux dirigeants, la nouvelle classe politique pour le bien-être, le développement de la province du Congo central.
En Ituri, 13 autres civils ont été tués hier vendredi au cours d'une nouvelle attaque du groupe armé Codeco à Nyamamba, localité située au bord du lac Albert à environ 70 km à l'est de Bounia dans les territoires de Djougou. Ces exactions ont entraîné le déplacement des populations dans plusieurs villages lacustres, notamment à Datoulé, Café, Mbogi et Gbi. La société civile locale déplore l'absence des FARDC dans ces entités qui sont sous contrôle des miliciens. Des détails avec Isaac Remoyopi.
Les habitants de Nyamamba ont été réveillés vendredi par des tirs nourris des miliciens de la Codeco venus des escarpements du Mont Blé, affirment des sources concordantes. D'autres assaillants munis d'armes blanches se sont mis à découper la population à des bandades. Ces hommes armés ont opéré pendant presque toute la journée de vendredi dans cette localité où il n'y a aucune présence des FARDC. Les bilans provisoires de ces exactions est de 13 morts, dont 8 femmes et 2 enfants, indique la société civile locale. D'autres personnes ont été blessées et acheminées dans des structures proches du lieu du drame. Pour le moment, les villages lacustres de Nyamamba et d'autres entités voisines, Café, Mbogi, Datoulé et Gbi, sont vidés de leurs habitants. Certains ont traversé les lacs Albert pour se réfugier en Ouganda et d'autres ont fui au centre commercial de Tchomi à 7 km où une panique a également gagné la population. Des sources locales plaident pour le déploiement des FARDC pour déloger les miliciens de la Codeco qui contrôlent plusieurs localités lacustres. Tous nos efforts pour avoir la réaction de l'armée face à l'escalade des violences qui ont déjà fait plus de 60 morts cette semaine dans les territoires des Djougou sont restés 20. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nord Kivu, deuxième jour d'accalmie ce samedi sur toutes les lignes de front dans les territoires de Rutshuru, précisément en groupement Tongo et Bishusha dans la chefferie de Bwito, mais aussi sur l'axe Nyamilima en groupement de Binza au nord de Rutshuru. Mais la psychose reste perceptible et la population s'inquiète toujours des menaces et exactions qui pèsent sur elle dans les zones occupées par les rebelles du M23. Les détails avec vous, Rachel Kessembangou.
Des sources concordantes, notamment de la société civile et les autorités locales, indiquent que dans la localité de Mourimbi, en groupement de Tongo, par exemple, le M23 aurait, dans un message à la population, menacé ouvertement les habitants. Selon certains témoignages, ces rebelles ont lancé une mise en garde contre la population de la région qu'en cas d'une nouvelle attaque ou embuscade des Mai Mai CMC contre leurs éléments, c'est la population qui en paiera les prix, car elle est accusée de complicité avec cette milice locale. À cela s'ajoutent des pillages, des récoltes et autres maltraitances auxquelles est soumise la population civile, surtout les hommes les plus ciblés. Cette situation inquiète beaucoup la notabilité de Rutshuru et suscite des réactions au quotidien des acteurs sociopolitiques pour dénoncer ces actes et demander que des efforts soient multipliés à tous les niveaux pour que cessent ces exactions contre les habitants non armés. Par ailleurs, sur l'axe Bishusha, notamment la région de Bouiza, proche de Massissi, aucune détonation d'armes n'a été entendue après les derniers affrontements du 11 janvier dernier. Toutefois, d'après la société civile de la région, la situation reste imprévisible car toutes les forces conservent leur position.
Et toujours au nord Kivu, en territoire de Beni, les responsables de plusieurs établissements scolaires du groupement Banande Kainama redoutent une probable année blanche. C'est du fait de l'insécurité qui empêche ces écoles de fonctionner. Le chef d'antenne de CECOP, Eringeti Oitia Kainama,
appelle les forces conjointes congolo-ougandaises en opération dans cette zone à multiplier les efforts. C'est afin de permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école. Marc Marofimbo signe ce reportage.
Selon le chef d'antenne de CECOP Eringeti Oicha Ainama, depuis la rentrée scolaire en cours, plusieurs écoles ne fonctionnent pas dans les groupements Bainan de Kainama, à part celles qui ont été transférées à Tchabi, dans la partie sud du territoire d'Irumu voisin, dans la province de l'Ituri. Bienfait Barak a dit craindre qu'une année blanche n'intervienne suite à l'insécurité dans cette région qui compte des milliers d'élèves. Avec le processus électoral en cours, il redoute aussi que plusieurs électeurs ne parviennent pas à s'enrôler. En réaction, l'armée s'est dit plutôt confiante. Le porte-parole des opérations militaires conjointes FRDC-UPDF dit compter sur la collaboration avec la population afin de sécuriser cette zone. Le lieutenant-colonel Makazukai.
Nous suivons de très près la situation sécuritaire dans cette partie du territoire d'Irumu. Nous sommes conscients que d'ici là, il y aura la rentrée scolaire, il y aura l'enrôlement des électeurs. On pensait que il est important que la population puisse garder contact avec nous parce que nous ne pouvons pas travailler sans cette population.
Cette même situation de sécurité est enregistrée dans les villages de la localité Manzati tels que Kakuka et Kingamuviri. Du côté de Kitimba, Kainama, Sayo, Mutido, Muziranduru et Kaukule, y compris la localité de Vido, sont tous sous la coupe des EDF et de quelques groupes armés locaux. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Les activités économiques reprennent normalement dans la ville de Kalemie, au Tanganyika, après 3 jours de mouvement de grève des commerçants. Mardi dernier, la Fédération des entreprises du Congo annonçait un mouvement de grève effectif depuis mercredi pour dénoncer l'insécurité et la perception de certaines taxes illégales à Kalemie. Il a fallu des discussions entre la FEC et le gouvernement provincial sous la médiation de l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour la reprise des activités. Les points avec vous, Philbert Balolagué.
Vendredi soir après la réunion, un accord est annoncé et certains commerces rouvrent les portes. Toutefois, la FEC espère une solution à l'insécurité qui a conduit à la grève. Jules Moulia, président de la FEC Tanganyika.
On a passé 3 journées très tendues sur toute la ville de Kalemie où il n'y avait pas de commerce, tout était fermé. Et aujourd'hui, on a pu finalement chuter avec une solution. L'autorité provinciale a décidé de prendre notre grief et d'aller avec ça à Kinshasa pour trouver des solutions idoines.
En attendant, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Alvar Kaluta, indique avoir de son côté entrepris des démarches pour la paix.
L'exécutif a cette obligation d'assurer la sécurité en permanence. Aujourd'hui, j'étais avec des généraux de l'armée et de la police pour la sécurité ici. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas abandonner la population et les commerçants qui nous approvisionnent en tout.
La FEC met fin à la grève aussi car leur démarche a abouti à la suspension de la taxe du commerce extérieur et de l'estampillage. Jules Moulia.
Il y a aussi d'autres plaintes que nous avions déjà amenées devant la table de l'exécutif provincial qui n'ont jamais trouvé de solution. Et aujourd'hui, ces griefs-là ont trouvé solution. Toutes les 2 taxes sont suspendues.
Le conseil urbain de la jeunesse de Kalemie a aussi condamné la situation sécuritaire et économique par une déclaration.
Fulbert Balolagué sur Radio Okapi. Au Kasaï oriental, baisse légère de prix de la mesurette de maïs dans les grands marchés de la ville de Mbujimayi. Vendue il y a 2 semaines à 7000 francs congolais, la mesurette de maïs se négocie actuellement entre 5000 francs congolais pour le maïs de la saison culturelle précédente et 3500 francs congolais pour le maïs récolté au cours de cette saison culturelle. C'est ce qui enchante les ménagères qui manifestent la joie. Des explications avec vous, Esther Ndalafina.
Au marché Bakwadianga, par exemple, plusieurs dépôts de produits vivriers sont inondés des sacs de maïs. La mesurette de 3,5 kg se vend actuellement entre 3 000 et 5 000 francs congolais. Marine Tumba explique certaines causes.
Le maïs a baissé des prix parce qu'on est en train de faire la récolte. Aussi, plusieurs agriculteurs viennent vendre leur maïs en Mbujimayi.
C'est la joie dans des familles nombreuses. Hélène Mujinga affirme que ses enfants mangent à leur faim.
Je suis très contente parce que mes enfants se rassasient bien. Je souhaite qu'on puisse acheter la mesurette à 2500 francs.
Selon les grossistes, l'acheminement de leurs marchandises par la SNCC peut encore diminuer le prix actuel de maïs sur le marché. Thérèse Bitota.
Que le gouvernement s'occupe de la réhabilitation de nos routes. Il n'y a pas de route. On charge les wagons, mais la SNCC ne les achemine pas. Le maïs arrive à destination déjà pourri. On fait des pertes.
Signalons que la hausse de maïs sème le déséquilibre dans plusieurs ménages du Kasaï oriental qui considèrent cette denrée comme aliment de base. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En bref, CHAN Algérie 2022, les léopards locaux de la RDC débutent la compétition ce samedi 14 janvier 2023. Ils vont affronter les crânes de l'Ouganda à Annaba en Algérie au stade du 19 mai 1956 à 17h local, à 17h heure de Kinshasa, un match comptant pour la première journée de la phase de poule du groupe B. Hier, les sélectionneurs des deux pays étaient en conférence de presse d'avant-match.
Actualité internationale.
Nicolas Aissom, le chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, a tenu sa première conférence de presse de l'année hier vendredi. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place l'accord de paix rapidement. Et puis les forces russes ont pris la ville de Soledar dans l'est de l'Ukraine, a déclaré hier vendredi le ministère russe de la Défense. Le ministère ajoute que la prise de la ville de Soledar par la Russie permettrait à ses troupes de contenir les forces ukrainiennes dans la ville voisine plus grande de Bakhmout que les Russes appellent Artemovsk.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur de l'organisation citoyenne qui lutte pour la bonne gouvernance au Bapège Sud-Kivu. Amos Bissimwa dénonce le fait que les nouvelles autorités des entités territoriales décentralisées de Bukavu ont trouvé les caisses presque vides. Je vous le rappelle, le maire ainsi que les bourgmestres de trois communes nouvellement nommées par ordonnance présidentielle venaient de prendre officiellement leurs fonctions le 11 janvier dernier. Amos Bissimwa répond aux questions de Jean Kassami.
Amos Bissimwa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez participé à l'opération de remise et reprise entre les autorités des entités territoriales décentralisées de la mairie jusqu'au niveau des trois communes. Comment ça s'est passé?
Justement, nous avons hier pris part à cette activité de remise et reprise des anciens animateurs et sortants et nouveaux animateurs entrant des ETD, surtout ceux de la ville de Bukavu, la mairie et les trois communes.
D'après les informations à notre possession, les entrants ont trouvé les caisses presque vides. Vous confirmez cela?
Je confirme et ça révoltait presque tout le monde qui était présent à cette activité parce qu'on ne comprend pas que la mairie nous dise qu'elle a laissé dans la caisse de l'État 120 $ et 8 000 francs. La commune d'Ibanda nous dise qu'elle a laissé 92 000 francs dans la caisse. Que la commune de Kadout nous dise qu'elle a laissé 31 $ dans la caisse. Et que la commune de Bagira parle de 250 $ et on se dit, si du moins le bourgmestre de la commune de Bagira ne serait pas reconduit, peut-être ça serait 1 ou 5 $. Ces entités gèrent des taxes qu'elles récoltent, mais aussi toutes ces entités reçoivent ce qu'on nous appelle rétrocession. Et alors, qu'est-ce que ces entités ont fait avec l'argent qu'elles gèrent?
Et vous, comme organisation qui aide à la promotion de la bonne gouvernance, quel appui pourriez-vous apporter pour que cela ne se reproduise?
Nous, à notre niveau, comme structure citoyenne, nous dénonçons que ceux-là qui gèrent la cité, ceux-là qui gèrent le pays, fassent leur travail. Nous, nous alertons, nous dénonçons ce qui ne va pas pour ce qui est de la gestion de la cité, surtout pour ce qui est de la bonne gouvernance. Et à d'autres institutions, la justice et d'autres dirigeants, de faire les lettres.
La loi confère à tout citoyen congolais le droit de pouvoir rester en justice toute personne physique ou morale qui enfreint les normes.
On est en train d'y réfléchir avec beaucoup d'autres organisations. Mais l'important d'abord, la première étape, c'est de réunir toutes les données afférentes pour éviter d'y aller va et va le moment où on n'est pas rassuré de toutes les données afférentes faites.
Pourquoi ne pas croire et comprendre que les fonds mobilisés seraient utilisés pour des travaux d'intérêt communautaire?
Je ne crois pas que ces fonds auraient été utilisés pour des travaux d'intérêt communautaire, parce que même si vous arrivez dans toutes ces entités, les agents dénoncent le non-paiement de leur salaire. Ils ont plusieurs mois d'arriérés. Et à part ça, il y a des projets dans le cadre du budget participatif qui ont été votés par la population bénéficiaire. Mais beaucoup de ces projets n'ont jamais été réalisés. Je prends un petit exemple ici à Moukoukoué. Juste avant d'arriver au sous-siècle de Moukoukoué, il y a un petit peu de prix parce qu'il y a plus de 5 mois. C'est dans l'entité commune d'Ibanda, mairie de Bukavu. Et la commune devait réhabiliter ce type, et la mairie devait réhabiliter ce type, mais chose qui n'a jamais été faite. Voilà pourquoi il y a vraiment à boire et à manger. Mais je pense que pour connaître réellement de l'éclaircissement par rapport à cette question qui a passé presque tout le monde hier, c'est question qu'on s'y investisse pour même des enquêtes sérieuses pour qu'on sache qui a fait quoi, il a fait où, il a fait comment et avec quoi.
Merci beaucoup, merci à Monsieur Bissima.
C'était l'invité de ce journal, le coordonnateur de l'organisation citoyenne qui lutte pour la bonne gouvernance au Bapej Sud Kivu. Amos Bissimwa répondait aux questions de Jean Kassami. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.